Bienvenue pour votre grande table des idées, une nouvelle semaine de mobilisation décisive pour l'Algérie après les appels à la grève reconduits ce week-end et les manifestations monstres de vendredi contre un cinquième mandat du président Bouteflika. Plus rien ne semble en mesure d'arrêter la marche d'un peuple déterminé à changer de système. Pas même les mises en garde par communiqué du président Alité contre le risque de chaos si le mouvement se poursuit. En vue, l'élection du 18 avril, un scrutin qui pour certains n'aurait plus de raison d'être. Alors Algérie, après la rue Les Urnes, avant de retrouver le journaliste et romancier Adlène Mehdi, auteur de 1994 chez Rivage, en ligne avec nous d'Alger, le point de vue de notre invité, le politiste Nedjib Sidi Moussa, chercheur associé au Centre européen de sociologie et de sciences politiques à Paris 1, auteur ce mois-ci d'un essai historique, Algérie, une autre histoire de l'indépendance, trajectoire révolutionnaire des partisans de Messali Hadj, et d'un article sur le site The Conversation intitulé « La révolution algérienne a-t-elle vraiment commencé ?» Bonjour à vous, Nedjib Sidi Moussa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ils ont 20 ans et n'ont connu qu'un président, Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999. C'est leur mouvement qui est en cours en ce moment en Algérie, celui d'une génération.
Oui, celui d'une génération, celui aussi d'une population qui, pour le rappeler, pour le préciser, ne s'est pas réveillée, comme on l'a entendu souvent, le 22 février, même si ces manifestations ont un caractère historique par leur dimension, par leur caractère massif, leur caractère national, mais durant toutes les dernières années, les Algériens se sont mobilisés, notamment dans des luttes sectorielles et catégorielles. Donc ce surgissement populaire auquel on assiste depuis le 22 février, il doit s'inscrire dans une continuité de lutte sociale, de conflictualité, qui n'a jamais réellement cessé en réalité.
Que vous faites débuter où ?
Qu'on peut ouvrir, enfin c'est une séquence qui a été ouverte à partir d'octobre 88, les émeutes de la jeunesse qui ont voulu mettre un terme au régime de parti unique. Alors ensuite, on a connu une séquence sanglante, hein, la décennie noire, comme on l'appelle, la guerre civile entre les forces de sécurité et les islamistes armés. Mais en même temps, durant toute cette période-là, c'est un peu ce que raconte Adlène Mehdi dans son roman et aussi Jamal Kerkar dans son très beau film Atlal, les Algériens continuent à vivre d'une manière ou d'une autre. Et avec l'arrivée du président Abdelaziz Bouteflika en 99, qui a essayé de mettre en œuvre une politique de concorde civile et de réconciliation nationale, eh bien, on a assisté à un nouveau cycle de lutte sociale qui n'a jamais réellement cessé. Sauf qu'il y a eu une sorte de deal, finalement, à ce moment-là, entre les autorités et les contestataires, notamment après le printemps arabe, après les printemps arabes de 2011. Et le deal était le suivant, je le formule simplement. En gros, les manifestants disent au régime, on va pas vous chasser, on fait semblant de reconnaître votre légitimité, mais en même temps, vous devez satisfaire tout de suite nos revendications catégorielles. Et pendant ce temps-là, le régime, l'État, s'appuyant sur des ressources, notamment tirées des hydrocarbures, pouvait se permettre d'acheter la paix sociale. Sauf que aujourd'hui, je pense que ce deal ne peut plus tenir et que cette volonté complètement surréaliste de vouloir présenter Abdelaziz Bouteflika un cinquième mandat a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et a été l'humiliation de trop pour les Algériens qui aspirent à un véritable changement.
Voilà, donc c'est cette échéance électorale du 18 avril pour vous et cette nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika qui expliquerait le pourquoi maintenant, pas le pourquoi avant, puisque vous évoquez cette continuité historique de la mobilisation et de la contestation. On pourrait citer le printemps noir aussi en Kabylie, les printemps arabes où la contestation a existé mais a été très rapidement étouffée. L'historienne Karima Diresh dans Le Monde disait le régime a surestimé la patience du peuple. Autre élément important, c'est un mouvement citoyen et pacifique, très jeune, comme la population algérienne, puisque 45% des Algériens ont moins de 25 ans. Mais c'est aussi une mobilisation qui n'est pas que urbaine, qui n'est pas qu'à Alger. Il faut dire que c'est le pays entier qui est mobilisé aujourd'hui.
Complètement, complètement. C'est vraiment en cela que c'est ce surgissement un caractère historique, parce que pour la première fois, et je pense que ça ouvre une période nouvelle non seulement pour l'Algérie mais aussi pour la région, c'est que les Algériens prennent conscience aussi de leurs propres forces, ils se réapproprient l'espace public qui a été privatisé par les forces de sécurité depuis de trop nombreuses années, puisque ces dernières années, quand il y avait des revendications ou des manifestations strictement politiques, très vite les personnes se faisaient arrêter ou disperser par la police. Alors le caractère pacifique que vous avez souligné dans votre intervention, il est important parce que c'est aussi une réaction justement à la guerre civile. C'est que il y a une volonté de s'auto-limiter de la part des forces de l'ordre, mais aussi de la part des manifestants, puisque personne ne veut revenir à ces années de chaos, même si c'est une menace qui est brandie, évidemment, par certains tenants du statu quo et du régime. Donc, ce caractère pacifique, il est aussi il est significatif de quelque chose. C'est une génération qui ne veut pas revenir en arrière, mais qui veut plutôt aller de l'avant.
Mmh. Un roman noir sur cette décennie noire que vous évoquiez à l'instant, Nedjib Sidi Moussa, 1994, publié à la rentrée dernière chez Rivage, celui d'Adeline Mehdi, qui dit aussi que l'histoire ne se répète pas dans ce roman, que l'horreur ne doit pas se reproduire, d'où l'importance d'écrire ces années-là. Bonjour à vous, Adeline Mehdi.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne d'Alger. Merci d'être là pour nous parler de ce qui se joue aussi en ce moment en Algérie. Une jeunesse, qu'a-t-elle en tête, cette jeunesse, pour vous? À quoi rêve-t-elle?
Écoutez, me revient les mots d'un ami qui est revenu de l'étranger exprès juste pour vivre ces moments incroyables du vendredi. Il me disait, cette jeunesse n'a pas voyagé, mais elle a vu le monde. C'est une jeunesse qui vit au XXIe siècle, qui est branchée sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui est déjà dans le trilinguisme, c'est-à-dire l'arabe, le français et l'anglais en plus. C'est une jeunesse qui a repoussé les horizons de possibilités, comme écrivait récemment le poète Taha Badis, et qui est complètement en déphasage avec un système politique qui est en pleine crise. Et cette crise est très importante, parce que si on ne comprend pas les mécanismes de cette crise, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé réellement ces dernières semaines.
Vous disiez l'an passé à Libération, j'ai 43 ans et je fais déjà partie de la vieille génération. C'est aussi une affaire générationnelle. Vous pensez qu'ils attendent autre chose que ce que votre génération attend aujourd'hui de la vie en Algérie, où vos préoccupations se retrouvent en ce moment?
En fait, ce qui est dramatique, c'est que Nedjib Sidi Moussa a tout à l'heure rappelé les événements d'octobre 88. Octobre 88 était une révolution de la jeunesse, mais aussi de toute une classe moyenne, intellectuelle, technocrate, etc., qui n'était plus représentée à l'intérieur du régime algérien à la fin des années 80, qui arrivait lui-même à la fin d'un cycle, le cycle révolutionnaire. Aujourd'hui, on a le même problème, mais il est encore plus aigu. Parce que il y a toute une frange de la population la plus active, la plus jeune, la plus innovante, la plus ouverte, qui est ici, qui est dans le monde en même temps. Et cette frange de la population ne se reconnaît plus. Elle a pas ses avocats, entre guillemets, à l'intérieur même du régime, qui souffre d'une crise de représentativité. Parce que le régime de Bouteflika, ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, s'est beaucoup rétracté, n'arrive plus à puiser dans les ressources humaines de la société et même du politique. Et c'est devenu un simple réseau d'oligarques que tout le monde connaît, qui ne fait même pas semblant de représenter les gens, qui ne fait même pas semblant d'être pour l'intérêt général. Donc c'est cette double fracture qui accentue la colère actuelle. L'autre élément qui est très important qui a déclenché cela, je ne sais pas si Nedjib Sidi Moussa est d'accord avec moi, mais l'élément le plus fort, c'est cette question de l'humiliation.
Oui.
Les gens se sont sentis humiliés. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est un substrat émotionnel et psychologique qu'on retrouve même dans les écrits, la poésie des Algériens à la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui contre le communisme français. C'est très important. Et c'est quelque chose qui a déclenché beaucoup d'autres demandes et a ouvert beaucoup d'autres horizons d'exigence aussi.
Alors humilié par quoi pour vous?
Oui, justement. Alors humilié par cette volonté de présenter Abdelaziz Bouteflika un cinquième mandat alors qu'il n'est plus du tout
président
en état.
Fantôme.
Tout à fait. Mais l'humiliation n'est pas nouvelle. Moi, je me souviens quand j'étais l'année dernière à Alger, quand le président a inauguré la mosquée à Alger, et qu'il a été photographié et filmé dans un état qui était véritablement lamentable, dans les discussions avec des jeunes, mais pas seulement des jeunes, il y avait vraiment une sorte de blessure narcissique qui s'exprimait. C'est en gros, nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On aimerait que quelqu'un nous ressemble. Donc, effectivement, il y a une crise de la représentativité ou de la représentation qui est ancienne, puisque depuis très longtemps, de toute façon, notamment les jeunes et les classes populaires, mais c'est pas propre à l'Algérie, là encore, ne votent plus, ne participent plus aux élections en Algérie. Et il y a aussi, alors c'est un autre paradoxe, il y a aussi la volonté, le souci, c'est ce qui s'exprime. Donc, à l'humiliation répond la volonté de dignité, mais à la mal-représentation répond également, alors peut-être avec des illusions sur la démocratie représentative, répond donc la volonté d'avoir un bon président. Hein, pour caricaturer et pour parler aux auditeurs français, je sais que certains Algériens aimeraient avoir un Macron algérien, en gros. C'est ce qui s'est passé quand Emmanuel Macron est venu à Alger. Ils ont vu un président qui a marché dans la ville, qui est parti au contact de la population. Alors évidemment, je
on va pas faire le bilan politique aujourd'hui d'Emmanuel Macron,
débrouiller
des contres, mais cette idée qu'il incarnait,
voilà, cette
aspiration, ce renouveau
existe, quoi qu'on puisse en penser, quoi que j'en pense d'ailleurs.
Vous qui êtes chercheur, Nedjib Sidi Moussa, et à propos de cette jeunesse, quel signal leur a envoyé le pouvoir dans ces dernières 48 heures en fermant les universités plus de 10 jours avant la date prévue des vacances de printemps? C'était le 21 mars qu'elles étaient annoncées. Les universités sont en partie fermées, même si les sites universitaires resteront finalement ouvertes. Les renvoyer chez eux alors qu'ils constituent une des forces premières dans les mobilisations qui se tiennent depuis le 22 avril. Il y a d'ailleurs des recteurs d'universités comme celui de Tizi Ouzou qui ont annoncé ce week-end que l'université ne devait pas obéir à un calendrier politique mais uniquement scolaire et pédagogique, et que donc cette faculté-là resterait ouverte aux dates annoncées. Dans The Conversation, vous vous demandiez aussi, Nedjib Sidi Moussa, si cette révolution n'aurait pas en fait commencé bien plus tôt, en 2009, avec la qualification de l'équipe algérienne de football pour la Coupe du Monde de l'année suivante en Afrique du Sud. Expliquez-nous ça.
Ah oui. En fait, c'est un parallèle qui, évidemment, on peut pas toujours expliquer le politique par le politique. Parfois, il faut faire des pas de côté et expliquer cela par le sport, par le social, par le culturel. Et quand on connaît l'importance du football en Algérie, est-ce que ça a suscité la qualification historique de l'équipe algérienne en 2009? Eh bien, on a assisté, et vous pouvez très bien retrouver les chroniques, les témoignages. J'en cite d'ailleurs un extrait d'une chronique de Kamel Daoud de l'époque. Il y a eu aussi un surgissement populaire. Donc, pour la première fois, et d'ailleurs, certaines personnes ont dit qu'on n'avait jamais eu ça depuis 1962, c'est-à-dire depuis la célébration de l'indépendance algérienne, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes sont sortis faire la fête dans la rue, jour et nuit. Et c'est quelque chose qui était inédit. C'est-à-dire que la population célébrait la fin de la guerre civile. C'est-à-dire que la population montrait qu'elle pouvait s'approprier l'espace public. Et ça, en un sens, on peut le qualifier de rupture ou de point de départ. Là, on est 10 ans après ça. Je pense qu'il faut réfléchir aussi à ce qui s'est passé en 2009.
Et vous insistez sur cette réappropriation de l'espace public, de la rue, qui a eu lieu à cette occasion en 2009. C'est peut-être pas si anodin si aujourd'hui les slogans et les chants des supporters de foot sont d'ailleurs au cœur des manifestations en Algérie. Une culture du stade qu'on retrouve donc transposée à la rue. السبا وشكون اللوم اللينا المعيشة هادية ساعات الفجر ومجاني نور غادي نكونسوميه بشوية شكون السبا وشكون اللوم اللينا المعيشة هادية في اللولة نقولو جزر شوهنا بالعشرية في الدنيا الحكاية بانت هكا صاد المرادية في التالتة البلاد. La Casa del Muradia, c'est devenu l'un des chants des manifestations écrits l'an passé, ce titre par le groupe Ouled El Badja. Voilà. Et alors, comme je suis pas très spécialiste en foot, j'ai cru comprendre que c'était une des chansons tubes des fans de l'Union sportive de la Médina d'Alger et que El Muradia, ça désigne la présidence de la République. Qu'est-ce qu'il raconte dans ce refrain?
En fait, c'est le. Il y a l'expression d'un ras-le-bol, mais qu'on retrouve en réalité dans tous les chants de supporters. D'ailleurs, c'est à mon sens une des matrices, là encore, quoi qu'on puisse en penser, du soulèvement. Il y a une culture populaire, et étant donné justement la fermeture de l'espace public pendant toutes ces dernières années, le stade est devenu une soupape et un refuge de la contestation, de l'expression des jeunes hommes urbains en général, puisque les stades ne sont pas ouverts aux femmes, pas par la loi, mais par la pratique. Et dans les champs de supporters, contrairement à ce qu'on peut entendre en France, par exemple, faisons une comparaison, il y a un contenu extrêmement social, politique, subversif. Il y a aussi de la poésie qui s'exprime, de l'amour, de la frustration, l'envie d'ailleurs, et un rejet de presque toutes les autorités. Quand je dis presque toutes, c'est sauf de la religion, mais il y a des chants, des slogans. C'est pour ça que celui qui est un peu plus connu aujourd'hui, il est encore une fois à réinscrire dans toute une palette, une panoplie de chants qu'on a retrouvé dans les rassemblements aussi bien dans la diaspora algérienne qu'en Algérie même, et qui donc ont irrigué en un sens cette culture contestataire.
Et il paraît que là, dans le refrain, si la traduction vous semble juste, Nejib Sidi Moussa, il est dit qu'au premier scrutin, ils nous ont eu avec la décennie noire. Au deuxième, c'est devenu plus clair, c'est la Casa del Muradia. Au troisième, le pays s'est amaigri à cause des intérêts personnels. Au quatrième, la marionnette est morte, mais l'affaire continue. Le cinquième va suivre. C'est déjà acté au moment donc où cette chanson a été écrite en 2018. Adeline Mehdi, je vous ai vu sur une photo avec un t-shirt de foot. Je ne sais pas quel club vous supportez, mais il paraît que dans les années 90, déjà, les stades étaient des espaces politiques, durant cette fameuse décennie noire. Adeline Mehdi ? Le temps qu'on vous retrouve.
On a perdu Adeline.
Cette culture du stade en Algérie, c'est logique qu'elle se retrouve aujourd'hui transposée dans la rue.
Oui, mais aussi on peut aussi faire le parallèle avec le rôle des mosquées, puisque les manifestations massives sont parties le vendredi après la grande prière. Donc ça a fait craindre à certains une manipulation des islamistes ou une récupération par les religieux, etc. C'est pas ça, c'est simplement que ces dernières années, notamment sous les quatre mandats de Bouteflika, les mosquées et les stades sont restés, on va dire, les deux espaces plus ou moins autonomes où on pouvait se rassembler, en tout cas. On pouvait se rassembler. Et donc la culture contestataire du football, elle est pas nouvelle, puisqu'on peut même la faire remonter déjà à la période coloniale. Quand la société indigène et autochtone a commencé à se réveiller dans l'entre-deux-guerres, quand je dis se réveiller, c'est-à-dire à s'auto-organiser, et qu'il y a eu la création de clubs sportifs dits musulmans, puisque à l'époque, le football, comme la vie politique, était compartimenté. Il y avait des clubs musulmans, des clubs européens et des clubs juifs. Eh bien, il y avait dans les matchs de foot, dans les stades, une sorte de confrontation, euphémisée ou pas d'ailleurs, du choc contre le colonialisme. Quand il y avait des clubs musulmans qui s'affrontaient aux clubs de colons européens, c'était une manière de jouer la lutte contre le colonialisme. Donc c'est quelque chose qui remonte à loin aussi, cet attachement au club, au quartier, à la lutte politique, quoi qu'on puisse en penser, encore une fois, parce qu'il peut y avoir aussi des débordements ou des expressions parfois de nationalisme, de xénophobie ou de régionalisme dans les stades, on peut pas l'occulter, mais c'est quelque chose d'ancré qui remonte à très loin.
Voilà, très bon article à lire dans le quotidien Le Monde sur ces transferts de culture entre le stade et la rue. Pour couper court à la contestation, le régime a longtemps brandi la menace d'un retour à la tragédie nationale des années 90, à cette fameuse décennie noire. On va écouter le Premier ministre s'exprimer à ce sujet, Ahmed Ouyaïa.
Nous avons confiance dans le peuple algérien, mais nous avons peur des manipulations et des manœuvres. Quand on parle de manœuvres dont pourrait être victime la rue, nous revenons en arrière, aux grèves de 1991. Ils étaient 1 million et ils représentaient une unité politique dans ces manifestations contre le régime. Et maintenant, je dis qu'il y a des appels à la grève. Et je rappelle les appels à la grève de 1991. Nous ne devons pas oublier et nous devons nous rappeler comment ont commencé ces appels. Chacun appartenait à une organisation et y était fidèle. Et cela a mené à la division et, à la fin, l'unité. Mon objectif n'est pas d'effrayer le peuple, non. Mon but est de parler pour rappeler le passé.
On a retrouvé avec nous Adeline Mehdi en ligne. On parlait juste avant de politique et de football, de culture du stade qu'on retrouvait aujourd'hui dans la rue avec Nejib Sidi Moussa. Là, à l'instant, les mots du Premier ministre prononcés le 28 février dernier devant les députés. Vous qui avez travaillé sur cette décennie dans votre dernier roman, Adeline Mehdi, est-ce que cette peur qui est sans être assumée comme même brandi et agité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des raisons de le faire de la part du Premier ministre ? Alors, je ne sais pas si vous nous entendez, ça fait deux fois que nous, on ne vous retrouve plus. On va laisser les boutons ouverts si jamais votre voix parvient jusqu'à nous. La question est de nouveau pour vous, Nejib Sidi Moussa. Merci.
Oui, alors, on a... Il y a un jeu assez pervers qui est joué par les autorités. C'est-à-dire que ils prétendent parler au nom du peuple, ils prétendent ne pas les effrayer, mais en même temps ils essaient de réactiver tout de même les traumatismes de la guerre civile. Ce qui n'a d'ailleurs pas commencé le 22 février. Hein. L'année dernière, il y avait des accusations d'instrumentalisation du souvenir des massacres, des grands massacres de 98.
La comparaison a aussi été faite avec la Syrie par le Premier ministre.
Mais ça a joué à plein après 2011. Moi, j'étais en Algérie avant et après les printemps arabes et j'ai pu mesurer l'ampleur de la propagande d'État, de la paranoïa, des rumeurs qui circulaient et le fait que il y avait un discours qui était aussi approprié par des segments non négligeables de la population qui disaient en gros, nous, on veut pas de printemps arabe. Mais quand ils disaient printemps arabe, ils parlaient pas de la révolution tunisienne. Il parlait du scénario syrien ou libyen.
Et encore 2011, c'était le début.
Mais ça arrivait assez vite en réalité. 2011, 2012, 2013. Et il y avait aussi quelque chose d'assez paradoxal et assez drôle en y repensant. C'est que très vite, de la part des autorités, venait un discours disant « Bon, nous, on n'a pas besoin de printemps. On l'a déjà fait en 88. » Alors qu'à l'époque, en 88, on le rappelle quand même, l'armée a tiré sur la population et les autorités disaient que c'était un chahut de gamin. Donc ils ont complètement délégitimé le mouvement. Et aujourd'hui, sur la question de la révolution, on retrouve à peu près la même chose. On entend des voix qui disent « Non mais nous, on a déjà fait la révolution en 54. Donc on n'a pas besoin de faire de nouvelles révolutions. »
Mais ces mises en garde répétées des années 90 en passant par la Syrie jusqu'au chaos évoqué par le président Bouteflika, c'est le signe pour vous d'un régime en panique, pour reprendre un slogan en vogue en ce moment dans les rues algériennes depuis 3 semaines. Vous pensez que la peur a vraiment changé de camp ?
En tout cas, mais comme tous les pouvoirs hein, qui, avec fermeté, nous disent droit dans leurs bottes que ce n'est pas la rue qui gouverne, à partir du moment où la rue est envahie par la population et qu'elle exprime ses propres aspirations, eh bien chaque pouvoir vacille. Je veux dire, peu importe les forces armées, policières, etc. À un moment donné, quand la population est déterminée à faire bouger les choses, ça bouge. Et c'est pourquoi on assiste depuis le 22 février, notamment après le 1er mars et le 8 mars, à des défections ou en tout cas à des déclarations ou des anciens tenants du statu quo, des personnes qui ont jusqu'il y a encore quelques semaines défendu mordicus le 5e mandat, aujourd'hui essaient de se rallier au peuple, essaient de finalement se racheter aussi une virginité politique et de se replacer dans une éventuelle transition.
C'était visiblement le cas, Adeline Mehdi, je ne sais pas si vous êtes avec nous, non, toujours pas. On va vraiment réussir à vous avoir, j'espère, avant 13h30. J'espère. C'était le cas d'un débat à la télévision publique hier, qu'Adeline Mehdi relayait sur son fil Twitter, oui. Où pour la première fois, des remises en question jamais vues jusqu'ici étaient prononcées et formulées durant ce débat. Oui. Il y a quelque chose qui est quand même en train de se fissurer.
Bien sûr, ce qui montre bien que tout est possible en réalité aujourd'hui.
Face à cela, ce qui est quand même étonnant, Nedjib Sidi Moussa, c'est le mutisme et la surdité visiblement des décideurs. On sait que le président Bouteflika est rentré, enfin devrait être rentré hier de Genève par avion, mais toujours, à part les communiqués, pas de prise de parole, pas d'apparition. Est-ce que vous pensez que cette révolution, si vous acceptez de la qualifier comme telle, pourrait perdre son sourire? On a parlé de révolution du sourire, et se radicaliser. Est-ce que ça pourrait basculer d'une manière ou d'une autre vers la violence si les manifestants n'obtiennent pas quelque chose?
Là, moi je n'associe pas forcément la révolution à la violence, et si violence il y a, pour le moment, elle ne vient pas des manifestants, qui sont vraiment dans un autocontrôle, dans une autolimitation. Je voudrais aussi revenir sur ce que vous avez dit à l'instant. Le régime n'est pas complètement muet. Hier, le chef d'état-major s'est prononcé en disant qu'il entendait la mobilisation populaire. Donc tout le monde essaie aujourd'hui de jouer sa partition, de faire comme s'ils sont à l'écoute de la mobilisation populaire, mais en faisant en sorte qu'elle n'aille pas trop loin. Ce qu'ils essayent aujourd'hui de faire, et c'est notamment le cas d'une partie du patronat, mais pas seulement, d'une partie des dignitaires du régime, c'est de faire en sorte que les gens rentrent chez eux. C'est un des objectifs. Alors, en lançant parfois aussi des mots d'ordre du type gouvernement de transition, assemblée constituante, c'est-à-dire essayer de trouver une nouvelle combinaison, d'essayer de constituer un nouveau bloc hégémonique qui associerait peut-être des segments du patronat qui jusqu'alors n'ont pas été assez associés au pillage ou à la gestion des richesses du pays. Donc, c'est ce qui est en train de se mettre en œuvre. Et il faut être vigilant face à cela.
Algérie, après la rue, les urnes, on en parle avec notre invité, le politiste Nedjib Sidi Moussa, auteur d'un essai historique, Algérie, une autre histoire de l'indépendance, trajectoire révolutionnaire des partisans de Messali Hadj, qui vient de paraître au PUF. Il est 13h22 sur France Culture.
France Culture. La grande table. Olivia Jesbert.
Pas une rupture, mais une accélération de l'histoire, nous désiez-vous en ouverture de cette émission, Nedjib Sidi Moussa. Un mouvement, pour l'instant, sans représentant fort ou leader, des figures qui se détachent peut-être de cette mobilisation pacifiste, mais qui peut prendre le relais? Que va-t-il se passer? On va essayer d'ouvrir un peu ensemble les scénarios à venir. Que penseriez-vous de l'homme d'affaires et opposant Rachid Nekka? C'est la question qui a été posée à Kamel Daoud hier sur le plateau de C'est Politique sur France 5.
Ceux qui sont à l'origine de ce mouvement, ce sont les 130 tués durant les printemps en Kabylie. Ce sont les gens qui sont passés par la case de prison. Ce sont les gens qui ont été forcés de s'exiler. Ce sont les gens qui ont été dépossédés de leur fortune. C'est pas Rachid Nekkaz. Rachid Nekkaz, c'est vraiment l'illustration de la tragédie algérienne. Parce qu'on refuse un cadavre, on se retrouve dans les bras d'un clown. Donc, il ne faut pas présenter cet homme qui est un agitateur, qui est vraiment un produit, un sous-produit des smartphones et d'Internet comme étant à l'origine de ce mouvement. Ce mouvement est quelque chose de beaucoup plus noble, qui a été payé beaucoup plus chèrement et qui ne doit pas profiter à des gens comme lui.
Mais c'est un clown, dites-vous, mais c'est un clown qui parle quand même à une partie de la jeunesse.
Non, il a récupéré une partie de la jeunesse parce que démographiquement, c'est une population qui est majoritaire en Algérie, qui n'avait pas de représentativité politique au sein d'une gérontocratie qui a toujours été là et qui gouverne ce pays, qui n'avait pas de représentation sociale ni culturelle et que lui est venu cueillir. Il a provoqué une immense adhésion pour, à la fin, perdre tout avec sa petite mise en scène.
Voilà, quand il y a des mouvements citoyens, collectifs comme ça de rue, il y a parfois des figures qui émergent, légitimes ou pas. Ça, c'était le point de vue de l'écrivain Kamel Daoud sur l'homme d'affaires et opposant Rachid Nekkaz, qui circule d'ailleurs entre l'Algérie et la France. Est-ce qu'il y a pour vous des porte-paroles qui, aujourd'hui, dans ce mouvement, pourraient être les hommes politiques de demain en Algérie?
Non, je n'en vois pas et j'ai pas forcément envie d'en voir. Enfin, je pense qu'il faut être juste dans l'analyse, mais il y en a pas. Et comme on me le disait hier, s'il n'y a pas de leader, ce mouvement ne sera pas décapité. C'est un peu ce qui se disait aussi chez les Gilets jaunes.
Chez les Gilets jaunes, oui.
Donc, je ne crois pas que pour le moment de figures émergent. D'ailleurs, il faut aussi le souligner, c'est ce que je rappelais dans mon texte, quand des hommes et des femmes politiques qui menaient, on va dire, une politique d'opposition plus ou moins complaisante avec les autorités ces dernières années, ont voulu aller dans la rue le deuxième vendredi, eh bien, ils se sont fait chasser et huer. Par la population. Donc ça veut dire qu'il y a un rejet profond, une méfiance qui, à mon sens, est saine de la représentation, à commencer par la représentation par les professionnels du politique. Et je pense que c'est un enjeu qui va se poser. C'est ce que disait d'ailleurs récemment un intellectuel à Alger, qui a circulé en Égypte et en Tunisie après les printemps arabes. Et ce qui risque de se passer aujourd'hui, la crainte en tout cas, c'est que on réinstalle une coupure entre d'un côté les représentants et les représentés. Mmh. C'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre de près.
Oui, c'est ce que vous écrivez dans cet article de The Conversation, c'est que le système politique dans son ensemble est aujourd'hui rejeté, ses compromissions, mais aussi son personnel et ses formes d'expression. Plus embêtant peut-être, c'est que toutes les oppositions sont affaiblies. Alors comment imaginer la transition aujourd'hui ?
Mais c'est pas à moi de l'imaginer. Je pourrais l'analyser ou y participer à supposer que le mot transition convienne exactement, puisque pour certains, on est entré dans un processus révolutionnaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut peut-être aller au-delà de l'imaginable. Il faut, je pense, se dire que les Algériens sont capables de beaucoup de choses. Pas parce qu'ils sont Algériens, mais parce qu'ils sont nombreux et mobilisés aujourd'hui.
Et donc, tant si que processus révolutionnaire, le mot transition est trop faible?
Peut-être qu'il est trop faible parce que,
la réalité,
parce que la façon dont il est utilisé, notamment par des techniciens, des technocrates et des professionnels de la politique, c'est faire en sorte, voilà, on va essayer de trouver le bon casting, faire le bon gouvernement avec le bon dosage et faire en sorte que les choses reviennent dans l'ordre. Est-ce qu'on a vraiment envie que les choses reviennent dans l'ordre, sachant que ce système est générateur d'inégalités profondes, il est générateur de disparités entre les régions, entre les populations, il est générateur de discrimination entre les hommes et les femmes, entre les Algériens et les non-Algériens. Donc toutes ces questions-là, en réalité, doivent être discutées, doivent être débattues librement, et pas forcément dans des institutions, dans des instances où la parole et la volonté populaire seraient cadenassées par la force des choses.
Le système Bouteflika est fracturé et se désintègre. Ça, c'est le point de vue d'Ali Benflis, l'ancien Premier ministre, principal adversaire du président Bouteflika dans le JDD ce week-end. Quelle alternative, du coup, à l'approche de l'élection présidentielle qui doit se tenir le 18 avril? Est-ce que, comme certains, là, à première vue, vous pensez, Nejib Sidi Moussa, que cette élection, ce scrutin, pour l'instant, n'a plus de raison d'être?
En tout cas, du point de vue de la population, c'est terminé. C'est le slogan qui est déjà lancé depuis longtemps, c'est qu'il n'y aura pas de cinquième mandat. Il n'y aura pas de cinquième mandat. Reste à voir, encore une fois, les combinaisons, les ralliements, les choses qui peuvent se passer dans les heures et dans les jours à venir. Donc moi, pour ma part, je relais ou je soutiens plutôt les appels à l'auto-organisation de la population sur leur propre base. Mais ce qui est sûr, c'est que le rejet du système, le rejet du FLN et la participation massive de la population lors des manifestations et aussi à la grève générale ouvre le champ des possibles. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut retenir.
Merci beaucoup à vous d'être venu autour de cette grande table. On a définitivement perdu et pas retrouvé Adeline Mehdi.
J'en suis désolé.
Oui, qu'on salue et on renvoie tous les auditeurs vers son roman que vous avez lu,
fait bien
lu. 1994, c'est chez Rivage. Merci à lui d'avoir été avec nous et tenté de l'être un peu plus longtemps encore. Merci mille fois à vous, Nejib Sidi Moussa.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre dernier essai, Algérie, une autre histoire de l'indépendance, trajectoire révolutionnaire des partisans de Messali Hadj. Et le titre de votre article paru dans The Conversation, La révolution algérienne a-t-elle vraiment commencé? Pour l'interrogation, merci enfin à toute l'équipe de la Grande Table, à Mayan Escovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, avec l'aide toujours précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, Sonia Le Glen avec Emmanuel Morse d'Incan. Très belle après-midi à tous sur France Culture, bien sûr.